Black Locast présent. Mais non.
Les Black Locas présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir, vous êtes bien donc sur Radio Dio 89.5 FM et c'est Rien à signaler. Ce soir, on va vous parler d'une histoire qu'on pense qui est importante à transmettre. C'est l'histoire des luttes pour l'avortement libre et gratuit et aussi pour la contraception libre et gratuite. C'est une histoire qui traverse tout le XXe siècle, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, on se demandera aussi qu'en est-il aujourd'hui de ce droit à l'avortement et à la contraception qui a été gagné aux alentours des années 70. Cette parole qu'on va vous transmettre un peu aujourd'hui, elle vient pas de nulle part, elle est basée sur un travail de recherche qui a été publié aux éditions Time Party et qui s'appelle « Avorter, histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 60 à aujourd'hui ». C'est signé du collectif IVP, un collectif c'est un petit peu développé autour de plein de réflexions qui sont passées à Grenoble autour de cette question de l'avortement et de la contraception ces dernières années.
IVP, ça veut dire...
Oui.
Ouais. IVP, ça veut dire interruption volontaire du patriarcat.
Voilà, tout à fait, c'est ça. Et cette brochure en plus petit format, le livre, donc c'est un gros livre un peu long à lire, et il y a une petite brochure de 32 pages qui est disponible sur infocus.net si vous allez dans des genres. Voilà. Et l'émission, elle se nourrit aussi un petit peu des réflexions, par exemple, de collectifs qui se mobilisent aujourd'hui autour de cette question, comme les phrases qu'il y a à Grenoble. C'est les féministes pour la réappropriation des avortements, des sexualités et des contraceptions. Voilà, alors je vais commencer un petit peu par dresser un petit peu le contexte. Comment cette histoire, ce mouvement social de lutte pour l'avortement et la contraception libre et gratuite s'est constitué. Déjà, resituer un peu le contexte. Donc au milieu du XXe siècle, l'avortement est quelque chose de criminalisé. C'est des lois natalistes qui ont été prises en 1920, après en 1923, en 1942... sous Vichy, qui font de l'avortement un crime contre l'État et la contraception est interdite. Donc on est dans une ambiance dans les années 50, les années 60, où il y a une forte répression sur la sexualité des femmes par donc une politique d'État et les institutions médico-religieuses. Les femmes, pour avorter, sont obligées d'avoir recours au marché noir. Et ça favorise pas forcément la transmission des savoir-faire qu'on avait pu développer, par exemple, dans le 19e siècle, parce qu'il faut bien savoir que l'avortement s'est pratiqué de tout temps et dans tous les pays. Et au 19e siècle, c'était quelque chose de plus fréquent et de moins criminalisé dans la loi.
Oui, et puis on peut aussi penser qu'il y a différentes époques, il y a des techniques variées et que du coup, on ne peut pas vraiment généraliser la perception qu'on a de ce qu'était l'avortement dans les années 50, parce que c'est aussi propre à une société, à une industrialisation, les gens sont plus dans les villes, tout ça. Donc c'est un contexte avec ces techniques, en fait. Et voilà. Donc y a une vision assez dramatique et catastrophiste de cette période qui est assez réaliste, mais on ne peut pas la transposer à... toute l'histoire et à tous les contextes internationaux, en fait.
C'est ça, c'est vachement lié, donc, enfin, c'est vraiment lié à des politiques d'État, quoi. Au fait qu'on laisse pas aux femmes la possibilité de le faire et de se transmettre les savoirs. Donc du coup, vis-à-vis de ce contexte-là, vont se mobiliser des gens, notamment donc, dès 1955, il va se créer un mouvement qui s'appelle Maternité Heureuse et qui deviendra aujourd'hui une association qu'on appelle le Mouvement Français pour le Planning Familial. Donc l'association Maternité Heureuse, son objectif, c'est de promouvoir l'épanouissement sexuel et l'harmonie familiale. Ils introduisent le concept de contrôle des naissances et ils amènent la contraception en France. À cette époque-là, donc, se créent aussi de façon très importante de partout en France des groupes de femmes au sein des mouvements sociaux de l'époque. Ça les amène à prendre conscience qu'elles ont une condition sociale commune qui les opprime et elles vont se mobiliser progressivement. Elles vont lutter contre les viols, les préjugés sexistes pour avoir le droit d'avoir du plaisir sexuel. Elles vont déclarer le privé politique. Et c'est là, en 70, que c'est un peu là-dedans que s'identifie le mouvement de libération des femmes qui se crée en 70. Et elles vont petit à petit se joindre à cette lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception libre et gratuite qui va être vraiment quelque chose de central dans la lutte des femmes dans ces années-là.
Ouais, et puis qui prend vraiment une portée médiatique importante avec des gens qui s'associent. Enfin, c'est vraiment lié à ce que tu disais tout à l'heure, à un mouvement social de l'époque et d'ailleurs auquel aujourd'hui on fait vraiment tout en référence. En fait, les féministes, c'est les années 70, tout ça. Bon, c'est un assez réducteur, mais du coup, il y a ce truc-là du manifeste qu'on a appelé les 343 salopes, qui étaient du coup les 343 avortés, où il y avait notamment des gens comme Simone de Beauvoir et d'autres gens, des actrices, tout ça, qui montrent un peu qu'à l'époque, il y a plein de gens assez variés qui sont mobilisés
vis-à-vis de cette question-là, notamment par exemple une association qui se crée à la même époque par Christiane Rochefort, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi pour les plus connus en 71, qui s'appelle Choisir et qui elle aussi donc se bat pour abroger la loi de 1920 qui criminalise et interdit l'avortement. Et cette association, elle va avoir une grosse action de défense gratuite des inculpés d'avortement qui avaient des procès, et du coup, il fallait notamment une défense gratuite, ça permet de pouvoir se défendre plus facilement que si ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, donc des exemples de mobilisation. Il y a d'autres mobilisations de la part des médecins, par exemple, ou des étudiants en médecine, un peu plus tard, vers 73, qui vont d'une part se visibiliser comme pratiquant des avortements de façon sûre et de façon fiable, et qui vont aller chercher des techniques, notamment en Angleterre, ces techniques-là qui sont sûres et reproductibles et fiables, qui sont des techniques instrumentales qu'on utilise encore maintenant. C'est les techniques qu'on appelle chirurgicales, c'est la méthode Karman par exemple. Et c'est des techniques qui vont transmettre à des femmes au sein de ce grand mouvement social qui émerge donc progressivement tout au long des années 60 jusqu'au début des années 70.
Si Dieu nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'il sait bien que ce serait catastrophique pour leur prévision démographique. Surtout pas trop d'informations sur la contraception. Il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. S'il ne nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'ils veulent contrôler leur production pour le contrôle de la production. Combien d'enfants sont vraiment désirés? Et combien sont-ils ceux qu'on a fini par accepter? Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Ils savent que s'ils nous donnaient les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, il n'y aurait plus assez de chômage pour leur permettre de nous exploiter. Que l'homme ne soit pas concerné par la maternité, il vaut mieux qu'il reste à l'écart de ces charmants moutards. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si nous donnions les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, nous serions bien plus redoutables face à ces gros bonnets respectables. Surtout sachant nous battre dans le quotidien, y a pas de moment privilégié pour savoir lutter.
Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller.
Donc voilà, c'était une petite chanson pour se mettre un peu dans l'ambiance de ces années-là, qui dit bien en fait les revendications que les femmes elles avaient à cette époque-là vis-à-vis de l'avortement et de la contraception. Donc j'étais en train de vous raconter que donc progressivement tout au long des années 60 et du début des années 70 se crée un terrain favorable au développement d'une lutte beaucoup plus étendue dans la société, beaucoup plus vaste, qui va prendre ampleur grâce donc à la réappropriation des savoirs sur comment faire pour avorter de manière fiable et sûre, et en fait comment se regrouper et créer des luttes autonomes. Et ça, ça va s'identifier au sein d'un mouvement qui s'appelle le MLAC, mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui va se constituer de façon plus précise en 1973, alors qu'il était en émergence jusque-là. Ce mouvement, il contient des membres de plein d'organisations différentes, du mouvement de libération des femmes, du mouvement français pour le planning familial, du groupe Intervention Santé, qui était constitué plutôt de médecins et de militants d'extrême gauche. Il est constitué de plein de gens qui vont se mobiliser sur cette question-là. C'est un mouvement qui va revendiquer une information sur la sexualité, la liberté de contraception sans discrimination d'âge et de moyens, la liberté d'avortement, et donc ils revendiquent l'abrogation de la loi 1920. Ils veulent un remboursement de l'avortement et de la contraception. Et ils sont vraiment très à cheval sur l'idée de créer des centres gérés par les usagères où tout ça serait possible. Donc c'est un mouvement au sein duquel se pratiquent de manière autonome des avortements, à l'époque donc clandestins puisqu'illégaux, par des femmes, parfois, ou par des médecins. Ça dépend un petit peu des groupes, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le MLAC, c'est un mouvement national constitué de groupes très différents en fonction des régions. Donc les avortements sont pratiqués parfois par des femmes comme à Aix-en-Provence ou à Grenoble, même à Saint-Étienne, ou par des médecins dans d'autres régions de France que là, j'avoue, je ne peux pas vous citer de tête. Donc voilà, c'est un mouvement qui est très radical, qui prend une ampleur un peu partout, qui crée une grande solidarité entre les femmes avec leurs alliés. Et ce mouvement va considérablement ébranler le pouvoir en place.
Et oui, il ébranle, comme tu dis, le pouvoir en place, et aussi parce qu'il est vraiment dans une dynamique de se donner des moyens de lutte autonomes. Et du coup, ça va déranger aussi, parce qu'il le met beaucoup en avant et il est beaucoup dans l'idée de réappropriation des savoirs. Voilà. Et alors donc, ce mouvement-là d'appropriation des savoirs, qui est avec des méthodes sûres aussi, peut-être tu l'as déjà dit, mais voilà, et de soutien dans la clandestinité. Et en fait, quand la loi de Veil passe, ce mouvement-là, en tout cas, comme tu as dit, il y a des groupes assez divers, et notamment le groupe du MLAC de Aix-en-Provence, se pose la question de continuer ou pas la pratique. Et donc, dans un film qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », dont on n'a pas les références là sous la main, mais vous pouvez le trouver dans les renseignements généreux, c'est un site où il y a quelques films à télécharger. Il y a donc dans ce film un passage, un extrait d'une réunion où ce groupe se questionne sur continuer à la pratique ou pas. Et donc Winnie a fait un petit montage là de quelques extraits et c'est vraiment très intéressant. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Voilà.
C'est 9 mois que la loi sur l'avortement est passée. D'après les renseignements qu'on a, à peu près tous les groupes du MLAC ailleurs sont arrêtés. Bon, bah pour diverses raisons, parce qu'ils étaient découragés, parce que c'était les médecins qui pratiquaient et que les médecins ont voulu s'arrêter. Bon, nous, c'est vrai que c'est jamais les médecins qui ont pratiqué les avortements dans notre groupe. C'est nous-mêmes et il y a plein de femmes qui ont appris à les pratiquer. Je crois que c'est important, ça va peser dans la décision qu'on va prendre. Mais il y a quelque chose qui a été un peu dur cet été, c'est qu'on est resté 5 ou 6 à continuer la pratique. Et 5 ou 6, c'est vraiment pas assez. Alors pour continuer, il faut qu'on se sente vraiment pas isolé, en tout cas à Aix, même si on est un peu isolé sur le plan national pour le moment.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, je n'ai jamais eu de pratique. Je vous ai connu il y a près d'un an. Je suis restée plusieurs mois sans venir aux réunions, mais j'ai gardé quand même un contact très fort avec plusieurs d'entre vous et j'ai vraiment envie de continuer avec vous, d'apprendre à faire des avortements. J'ai envie de continuer avec vous la pratique. Moi, j'ai avorté il y a quelque temps déjà et puis tout s'est très bien passé et maintenant, j'aimerais bien avoir des rapports avec vous. Pour l'instant, c'est dur parce que bon, mon milieu familial ne me le permet pas. Alors, si vous continuez, moi, un peu plus tard, je pourrais m'insérer dans votre groupe. C'est ça que j'aimerais bien faire.
Moi, j'entends dire faut continuer. Je me sens pas bien du tout parce que j'aimerais dire moi je veux arrêter et je veux arrêter parce que je travaille en équipe, vous le savez, il y a les permanences, il y a les avortements, il y a des réunions, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait une charge très lourde et en ce moment je suis très fatiguée. Ça pose aussi des problèmes chez moi par rapport aux enfants. Je n'y suis pratiquement pas. Mon mari le reçoit très mal, il fait des scènes. Enfin, moi, je dis j'arrête parce que j'ai besoin de rester un peu chez moi.
Il y a longtemps que je vous connais et que je vous étudie. Au début, j'étais contre, tout à fait. Je disais, qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui viennent là à côté ? Et qui essaye de remplacer les gynécos. Mais quand je vous ai vu à l'œuvre, alors ça, j'ai changé totalement.
Il faut absolument continuer parce que cette loi, d'abord, c'est un piège. C'est pas du tout ce qu'on veut. Elle contient pas ce qu'on veut. Elle est incomplète. Et même si elle était bien au niveau de l'hôpital, il peut pas se passer à l'hôpital ce qui se passe quand nous on fait des avortements.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, je suis assez mal à l'aise depuis tout à l'heure. J'entends, il faut continuer la pratique. Et moi, je pense qu'il faut pas la continuer. Enfin, je sais pas, mais on parle là comme si la loi n'était pas passée, justement. Pourtant, si on a pratiqué, si on s'est battu jusqu'à maintenant, c'est bien pour que cette loi passe. Et on fait comme si elle n'était pas passée. Et je comprends pas.
Tu vois, Naïk, j'avais envie de te dire, quand on est allé à l'hôpital, on a accompagné les femmes, puis on les a accompagnées jusqu'au bloc opératoire, dans le bloc opératoire. Et vraiment, de voir une femme qui va avorter, alors qu'un avortement, c'est quelque chose de dur, mais c'est tous au fait malade. De voir une femme dans cet état-là, assise sur un fauteuil roulant avec une petite chemise, là, à attendre complètement seule dans un couloir. Mais je vois pas ce qu'on a gagné là-dedans, toutes. Parce que cet isolement, c'est pas possible. J'ai vraiment qu'une envie, c'est qu'on continue.
On a une loi, elle est pour qui ? Pour les filles qui ont du fric, parce que pour donner 700 francs pour avorter, je trouve ça un peu dégueulasse. Et puis les mineures étrangères, qu'est-ce qu'elles deviennent dans tout ça ?
Voilà, c'était ce petit montage de la parole de femmes participant au MLAC d'Aix-en-Provence qui discutaient donc autour de la question de poursuivre la pratique des avortements de manière illégale malgré le passage d'une loi. Donc, comme je vous disais, ce mouvement social a ébranlé le pouvoir en place, qui en 1975 charge Simone Veil, alors ministre de la Santé sous Giscard d'Estaing, de soutenir un projet de loi à l'Assemblée nationale pour encadrer en fait l'avortement en France. Cette loi, c'est une loi de compromis, et en fait, c'est une loi qui finalement est défendue par Simone Veil comme visant à réduire les séquelles des avortements clandestins, réduire le nombre d'avortements et finalement lutter un peu contre toutes ces pratiques autonomes que les femmes commencent à développer, notamment au sein du MLAC. C'est une loi qui est très restrictive. Ça, c'est ce qu'on ne retient pas finalement dans notre histoire et qu'on oublie. Donc, ce que je vous racontais, c'est que les militantes et les militants du MLAC revendiquaient l'abrogation de la loi 1920 et la loi Veil, donc de 1975, ne le fait pas du tout. L'avortement reste un crime pénalement puni. Cette loi ne permet pas la publicité pour l'avortement ni la contraception. Les mineurs sont obligés d'avoir l'accord parental, donc ça présage de grandes difficultés pour accéder à l'avortement. Et c'est quelque chose d'interdit aux étrangères sans papier. Cette loi ne prévoit pas du tout le remboursement de l'avortement. Et à l'hôpital, le coût est très important, alors que dans les pratiques du MLAC et dans les pratiques autonomes d'avortement, à cette époque-là, ils arrivaient à avoir un coût vraiment, vraiment très faible. En fait, en comparaison, par exemple, c'était 700 francs à l'hôpital et 27 francs les pratiques que le MLAC d'Aix-en-Provence fait. Donc,
ouais, puis elle pose vraiment la question de l'isolement aussi à la fin. Là, c'est vraiment intéressant. Et du coup, toute cette réappropriation du corps et d'une pratique du coup, collective aussi, partagée, soutenue.
Tout à fait.
Présente dans ces collectifs, quoi.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est des collectifs qui se mobilisaient aussi beaucoup sur se réapproprier l'accouchement. Hein. Elles se mobilisaient pas que autour de la question de l'avortement, mais c'est quand même une des revendications centrales. Donc, les militantes, après donc cette loi de 1975, elles continuent de lutter. Et comme vous l'avez bien entendu dans ce petit extrait, bah, chacune se questionne et chacune d'entre elles ne va pas prendre les mêmes directions. Il y en a une partie d'entre elles qui vont plutôt se diriger vers des institutions ou des associations pour faire pression et faire appliquer cette loi, créer des centres IVG partout en France. Et il y en a d'autres qui vont plutôt se dire non, nous on veut poursuivre la pratique des avortements, bon, du coup de manière illégale et de manière autonome, parce qu'on veut se réapproprier ces savoirs-là, la disposition de nos corps, etc. Et par exemple, c'est le cas de ce MLAC d'Aix-en-Provence. Elles vont continuer à pratiquer des avortements de 75 à date d'adoption de la loi jusqu'en 79, et elles vont être inculpées, elles vont subir un procès en fait. 6 d'entre elles sont inculpées d'avortement et d'exercice illégal de la médecine. Et elles vont être très soutenues nationalement et localement. Et je vous propose d'écouter encore un petit extrait de Regarde, elle a les yeux grands ouverts, où on entend ces ambiances de manif et de soutien qui font chaud au cœur.
Jamais sans vaincu, les femmes unies, jamais sans vaincu, les femmes.
Donc voilà, c'était un petit extrait de la manifestation de soutien aux 6 femmes d'Aix-en-Provence appartenant au MLAC d'Aix-en-Provence inculpées d'avortement et d'exercice illégal de la médecine. Et pour une petite précision, elles ont en fait été relaxées de l'inculpation d'exercice illégal de la médecine, mais par contre, elles ont toutes été condamnées du fait d'avoir pratiqué un avortement. C'était sur une mineure, donc du coup, elles ont eu des peines de prison avec sursis chacune. Voilà. Et donc pour conclure, c'est ma petite conclusion de tout ça, c'est que donc jusqu'en 79, la lutte elle continue malgré le passage de cette loi. Et en 79, on peut tout à fait le constater, il y a 50 000 femmes dans la rue à Paris qui défilent pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Et la loi donc qui était passée pour 4 ans en 75 est réadoptée, reconduite en 79 avec une obligation supplémentaire pour les hôpitaux publics de créer en fait des centres d'interruption volontaire de grossesse et de contraception. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser écouter une petite chanson.
C'est de rester devant la loi, coupable de ce droit. Avortement d'État, sorcière de notre siècle, femme emprisonnée, femme jugée, sommes-nous en féodalité? L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leurs lois, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, loi que l'on déguisa, un jour de farce à l'Assemblée, sans nous y décider. Avortement d'État, encore leur profitera, nous celui qu'on avait appris était libre et gratuit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, si les femmes sont inconscientes, ce n'est pas de tout ce silence, mais de leur force et de leur droit. Avortement d'État condamne encore les femmes, mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Mais plus jamais on admettra droit.
Voilà, donc c'était une chanson dont on n'a pas le titre ni le groupe, mais en tout cas, nous on a, voilà, on a intitulé Avortement d'État, et ça reflète bien la question qu'il y avait à cette époque, donc entre la différence qu'elle pouvait faire entre légalisation et dépénalisation, et du coup, elles étaient plus pour la dépénalisation pour toute une partie de ce mouvement. Voilà, puisque vous êtes toujours donc sur. Radio Dio 89.5 FM, et on vous parle des luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement. Et donc ensuite, on va aller après 79, où la loi est réellement adoptée, donc la loi Veil, et après ces grosses manifestations, je rappelle quand même qu'il y avait 50 000 femmes dans la rue à Paris. On arrive dans les années 80 où on est donc dans une politique de gauche et une institutionnalisation des mouvements en fait et du coup de forme des professionnalisations et puis il y a par exemple Yvette Roudy en 81 qui est ministre du droit donc de la femme, hein, aujourd'hui on dit le droit des femmes sinon c'est ringard. Et donc 20 ans après, derrière, qui vont s'enchaîner pour faire respecter un peu cette idée de droit et faire appliquer en fait les lois qui vont évoluer aussi. C'est ce qu'on va voir là.
Mmh. Oui, c'est ça en fait. Hein. Donc, à partir dès 75 et bien sûr de plus en plus jusqu'en 79 et après, les féministes, les groupes de femmes, les différents mouvements qui se mobilisent pour l'avortement et la contraception vont faire pression au niveau des centres hospitaliers ou au niveau des instances hospitalières locales, départementales, pour créer des centres d'interruption volontaire de grossesse. Et ils vont y arriver. Donc, dans des régions, c'est pour ça que vous avez des centres autonomes qui ont été vraiment créés sous la pression de ces féministes et de ces groupes de femmes et de ces militants. Mais à d'autres endroits, ça a moins été le cas. Ça a été fait différemment. Et du coup, ces centres, ils sont plus intégrés à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a des grosses disparités sur le territoire français. Et donc, à partir des années 80, donc sous ce gouvernement de gauche, effectivement, ces centres vont être de plus en plus créés et ils vont employer en fait les anciens militants, des personnes qui sont volontaires et mobilisées sur ce sujet-là et qui veulent s'investir. C'est les mouvements qui vont faire pression sur les gouvernements, sur les médecins et sur tous les intervenants concernés. Ça va du coup plutôt être des mouvements féministes assez professionnels et assez institutionnels dans les années 80, dans les années 90. Et d'ailleurs, dès 79 se crée une association qui s'appelle l'ANSIC, qui existe encore aujourd'hui et qui est une association très importante. Ça veut dire Association Nationale de Coordination pour l'IVG et la contraception. Et plus tard, en 90, se crée la CADAC, une autre association importante qui, elle, regroupe vraiment un très large panel de syndicats, de partis politiques, d'associations autour de cette question. Et ça signifie coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception. Donc en fait, pourquoi ces associations se créent ? C'est en réponse aux résistances en fait. Parce que cette loi de 75, elle est adoptée, elle est reconduite en 79, mais il y a plein de résistances pour son application, notamment par le corps médical qui d'une part est très peu formé, et pour une autre partie du corps médical, ils font valoir une clause de conscience, ils disent qu'eux, ils ne veulent pas pratiquer des avortements, que ce n'est pas éthique, blablabla. Donc ça, c'est déjà une première résistance. Ensuite, il y a le gouvernement qui est une résistance parce que même sous un gouvernement de gauche, en fait, les décrets mettent des plombes à être publiés. Les fonds ne sont pas débloqués. On finance pas ça. Par exemple, c'est qu'en 1982 que l'IVG sera enfin remboursé. Mais la contraception ne le sera pas. Et par exemple, une petite anecdote, c'est seulement en 1987 qu'on a le droit de faire de la pub sur les préservatifs. Et tout ça parce que il y a le sida qui est découvert.
Ouais, vas-y, j'ai bugué.
Et d'autres résistances, c'est les anti-IVG, des groupes anti-IVG qui se développent pas mal. Donc c'était Laisser les vivre dans les années 70 et maintenant ça s'est transformé en SOS tout petit. Et eux, ils vont faire des tentatives d'entraver en fait les centres IVG en s'enchaînant aux tables d'examen et aux tables d'intervention. Bien sûr, il y a aussi l'Église catholique avec l'autorité du pape qui encore dans les années 90 développe une pensée totalement contre la contraception, contre le préservatif, etc.
C'est toujours encore le cas d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est toujours le cas, effectivement. Oui, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Et voilà, donc ces associations, elles sont bien obligées, donc l'ANSIC et la CADAC dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont bien obligées de se mobiliser et de faire pression pour que ce droit ne soit pas remis en cause, parce que quand même, c'est pas évident hein, dans ce contexte-là. Voilà, écoutez, je prends mes notes, je suis un peu perdue. Mais donc voilà, les années, ces 20 années en fait de luttes politiques qui sont finalement moins connues et moins médiatiquement moins mis sur la place publique parce que ça, c'est plutôt des associations de professionnels qui se mobilisent et on a un petit peu l'impression en fait dans la société civile que l'avortement c'est un droit gagné et que ok c'est bon depuis 75 il est là et tout va bien. Alors qu'en fait quand on fait un constat aujourd'hui c'est pas vraiment ça qui se passe.
Bah, du coup c'est une lutte conséquente mais en même temps qui paraît un peu souterraine alors qu'elle est menée par des organisations, des groupes au sein du planning familial. Il y a par exemple quand même des gros groupes d'action, quoi, des groupes de réflexion. Et du coup, il y a des gens derrière. Mais c'est vrai que si on ne s'y intéresse pas trop, on a peu d'informations en fait, là-dessus et peu de visibilité dans les médias, peu d'intérêt en, fait, en général. Quoi.
Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais.
Pause très rapide pour revenir donc à un autre moment, enfin, toujours dans la continuité de nos histoires de lutte et d'accès à l'avortement et à la contraception. Donc en 2001, il y a sous la pression un peu de tous les collectifs dont on vient de parler, la CADAC, l'ANCIF, le MFPF, avec des associations aussi en faveur du droit des femmes et des associations qui se disent féministes, une mobilisation et une très forte pression de ces associations-là pour le droit à maîtriser sa fécondité et à faire un peu avancer du coup ces lois et ces droits. Donc en juillet 2001, il y a une forme de modernisation de la loi Veil et de la loi Neuwirth qui donc date de 67 et est sur la contraception. Et donc, ce qu'on peut noter depuis 2001, c'est donc la décriminalisation de l'avortement, donc qui n'est plus inscrit dans le code pénal et qui, par contre, reste dans le code de la santé publique. Donc, l'avortement n'est plus un crime, il devient un délit s'il n'est pas conforme à la législation. Il ne faut pas dépasser donc, les 12 semaines. Voilà, sinon, il y a des peines qui sont encourues. Voilà, donc les semaines aussi, le délai, il évolue. Il passe, il a 2 semaines de plus. Donc, il est permis une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines ou 14 semaines en fonction comment on compte. Et donc, par la méthode instrumentale, qu'on appelle comme ça, ou intervention, voilà, qui donc passe par une demi-journée. Bon, c'est peut-être pas, on n'a pas beaucoup de temps pour vous en parler plus que ça, mais voilà. Il y a ce que j'ai envie de préciser, c'est que donc c'est quelque chose qui est relativement court comme intervention et qui peut se faire sous anesthésie générale ou locale. Et ce que tu as pu dire et puis ce qu'on va redire, c'est que les conditions et les modalités de l'avortement se font différemment suivant les lieux, les personnes, les départements en France. Et que ça, c'est un choix qu'on a en fait de l'anesthésie générale ou locale. Et à des moments, on ne laisse pas le choix aux femmes en fonction des motivations et des politiques. Mais ça fait partie des choix possibles. Et voilà, il y a aussi l'IVG médicamenteuse qui se fait de 5 semaines ou de 7 semaines, toujours en fonction de comment on compte, qui là est diffusée, qui est rendue possible par les médecins en ville qui sont agrégés. Donc il y en a toujours très très peu. Hein, sur Saint-Etienne, par exemple, sur la région, on en a, je crois, un. Après, il y a des gynécologues aussi qui s'y mettent un peu, plutôt les plus jeunes générations. Et depuis 2008, les plannings familiaux ont obtenu aussi le droit de les prescrire et de gérer en fait cette prise d'IVG médicamenteuse qui se fait en 2 fois. Voilà. Et donc, qui demande aussi un peu un suivi et qui c'est important qu'il y ait une présence et un lien quand les personnes elles font ça parce que ça ressemble un peu à une fausse couche en fait. Donc voilà. Après, il y a les peines pour l'entrave à la pratique de l'IVG qui sont alourdies. Donc voilà, c'est une reconnaissance aussi des tentatives d'entrave à l'avortement que font des groupes comme voilà, SOS Tout Petit et compagnie.
Oui, et qui, je voulais préciser qu'en fait, c'est des lois qui avaient été prises dans les années 90 et qui ont été alourdies. Parce que je ne l'avais pas dit, du coup, ouais. Je voulais juste redire que c'était des lois qui avaient été votées il y a une dizaine d'années, puis qui là sont...
Tu parles pour l'entrave.
Oui, voilà.
Oui, l'entrave, voilà. Continuer à soutenir, à condamner ces actions-là. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Après, la publicité et l'information sur les centres autonomes d'IVG et sur les démarches pour faire un IVG sont permises.
Donc, ça veut dire qu'on peut en parler ce soir, par exemple.
Voilà, par exemple. Alors qu'il y a quelques années, on aurait pu être censuré ou réprimé, tout ça, machin. Et puis, les femmes qui n'ont pas de papier français ont la possibilité d'avorter en France. Voilà. Ensuite, alors il y a l'histoire de l'entretien en fait, qui était quelque chose d'assez, qui était obligatoire en fait, un entretien social qui en fait maintenant a été rendu non obligatoire, qui est toujours proposé, suggéré plus ou moins bien, plus ou moins insistamment, je sais pas comment dire, en fonction des gens aussi. Mais en tout cas, qui n'est plus obligatoire. Et par contre, il y a une semaine de réflexion qui se fait entre le moment où il y a un rendez-vous pour un avortement et le jour de l'avortement.
Ça, c'est maintenu.
Et qui peut être, voilà, il est maintenu. Ça, c'est un moment de réflexion, mais qui n'est pas encadré obligatoirement par une rencontre avec un professionnel ou je ne sais pas quoi. Plutôt des conseillères conjugales, je crois, en général. Et puis, ce délai peut être réduit en fait, de 48 heures s'il y a une urgence, qui correspond plutôt à des délais qui seraient trop limités. Donc, voilà. Par contre, pour les mineurs, cet entretien social, il est maintenu et il est toujours obligatoire. Et elles ne sont pas tenues de prévenir leurs parents d'un avortement, mais elles doivent être accompagnées d'une personne adulte de leur choix. Donc voilà, ça aussi, c'est quand même un truc important dans cette loi de 2001. Donc voilà, donc des nouvelles évolutions autour de ce droit qui restent malgré tout encore limites et puis qui sont, on va le voir là, des fois ambiguës entre le fait qu'il y a des nouvelles, des combats qui font avancer des choses et puis toujours des résistances en fait. Tu parlais de résistances dans les années 80, aujourd'hui on retrouve un peu les mêmes, notamment le fait qu'il n'y ait toujours pas de formation réel en fait pour les médecins, c'est-à-dire que dans la formation d'un médecin qui dure à peu près 8 ans, il y a entre 2 et 8 heures de formation théorique qui concerne les contraceptions et l'IVG. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment pas pris en compte. Et puis il n'y a que les médecins qui sont eux qui ont la possibilité de faire réaliser ces avortements en fait. Donc alors que on peut estimer aussi que les infirmières et les sages-femmes, par exemple, seraient des personnes qui peuvent réaliser ces avortements. Voilà, ça simplifierait aussi pas mal de trucs, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et voilà, le seul truc qui a été mis en place très récemment, c'est un diplôme universitaire de maîtrise de la fécondité, qui est donc une option qu'on fait au-delà d'être médecin, enfin après, et qui n'a lieu que dans un ou deux endroits en France. Donc pareil, c'est bien que ce truc-là ait lieu, mais il est relativement peu fréquent, peu de gens font faire cette formation, quoi. Après, l'un des problèmes, c'est l'application, le contrôle de l'application de la loi, en fait, parce que les conditions d'accès à l'IVG sont très différentes et il n'y a pas de dispositif qui est mis en place pour gérer, en fait, regarder toute la manière. Parce que c'est hyper... différents en fait les pratiques en fonction des lieux et donc
oui voilà. C'est lié à l'histoire et puis c'est ce que je vous disais en fait, c'est que c'est vraiment lié à l'histoire, à comment les gens ils sont mobilisés localement et du coup il y a des endroits où il y a des centres autonomes qui permettent un accès très facile à l'avortement, qui se mobilisent et qui ont des gens volontaires, et d'autres endroits où en fait c'est des professionnels qui travaillent dans la maternité par exemple et qui n'ont pas forcément très envie de faire des avortements mais qui se retrouvent contraints à le faire ou du moins très encouragés à le faire parce que c'est obligé dans la loi, il faut qu'il y ait un centre IVG. Et du coup, l'ANSIC et la CADAC, c'est ça que tu dis en fait, elles aimeraient vraiment pouvoir contrôler l'application de la loi et faire en sorte que partout en France ce soit pareil, l'accueil soit le même, que les délais soient les mêmes, que le discours tenu aux femmes soit les mêmes, etc. Et en fait, il n'y a pas d'organe régulateur de tout ça. C'est une des revendications des associations, des militantes, des professionnels.
Ouais. Oui, il y a une autre chose du coup là-dedans, c'est que récemment, l'inspection générale, enfin récemment et depuis longtemps en fait, l'inspection générale des affaires de santé tire un peu la sillette d'alarme en disant que bah, il n'y a pas assez de lits pour les IVG et qu'aucun moyen n'est débloqué. Et ce que tu viens de dire là, ça rejoint un peu les questions qui se posent de l'application en fait et les conditions de l'avortement avec les restructurations hospitalières. C'est-à-dire, en fait, il y a une nouvelle réforme de la santé en ce moment qui s'appelle loi hospitalité, santé, population et territoire, donc qui va redéfinir le financement de l'hôpital par la sécurité sociale et qui, en fait, fusionne des tonnes de services, fait des gros pôles hospitaliers et donc l'avortement fait aussi partie des services qui sont concernés. Et donc, on va se retrouver avec des centres IVG dans les services gynéco-obstétriques qui englobent en fait les centres de maternité. Donc ça existe déjà en France à plein d'endroits, notamment d'ailleurs dans la région, c'est ce qui se fait beaucoup, mais c'est pas le cas partout. Et c'est quelque chose qui se met en place comme une forme du coup généralisée, là, une espèce d'unification. Mmh. On n'aura pas vraiment le temps de parler de l'hôpital couple enfant qui est en fait un bon exemple de cette situation-là, en tant que pilote, un peu prototype qui voudrait se faire généraliser, de regroupement comme ça de tous les services, où en fait ce qui se passe autant là qu'à d'autres endroits, c'est que quand on dit tout le monde au même endroit, ça veut dire moins de personnes pour plus de travail, en fait, souvent. Donc l'avortement qui est peu valorisé, va se retrouver plus facilement le dernier truc que les gens n'ont pas envie de faire et qui ne rapporte pas grand-chose. Donc là, c'est vrai que...
Et d'ailleurs, je peux dire que l'hôpital couple enfant, c'est un hôpital qui a été construit à Grenoble. Et il y a justement les phrases, les féministes pour la réappropriation des avortements, de la sexualité et de la contraception, elles se sont pas mal mobilisées sur cette question-là. Et il y a une petite interview qu'on peut lire sur Indie Media Grenoble qui s'appelle Pif Paf Pouf. Et c'est pas mal, ça donne pas mal d'informations et c'est critique tout en étant aussi en disant bah oui mais on attend de voir qu'est-ce qui se passe là-bas parce que tout est pas forcément mal, il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont super chouettes certainement, du coup on n'est pas contre l'hôpital couple enfant, voilà, c'est pas une histoire d'être contre ou d'être pour, mais c'est une histoire d'être vigilante parce qu'en fait on voit bien que l'avortement est toujours remis en cause et il faut être très vigilante.
Oui, parce qu'en fait nous ce qu'on a envie de soutenir ici c'est vraiment l'idée que les femmes aient le choix. Les choix autant dans les conditions de l'avortement mais aussi même dans la manière de vivre les avortements quoi, autant on va pas avoir beaucoup de temps d'en parler là, mais simplement le fait de pouvoir vivre un avortement sans qu'il soit tragique et que ça prenne plein de place dans sa vie, c'est quelque chose qui est peu envisagé en fait dans nos sociétés et on est plutôt sous des formes de pression à la culpabilité qui sont encore qui pour nous en fait vont continuer à exister, notamment dans ces dispositifs là de rassemblement total où c'est pas des conditions, se retrouver dans une maternité pour aller avorter ou pour aller faire enlever l'utérus parce qu'il y a un cancer ou je sais pas quoi, ça a pas de sens quoi, c'est pas intéressant. Et puis ça fait un peu écho à ce qui se passe en Europe parce que c'est quand même une situation qui est toujours mobile, cette histoire d'avortement, il n'y a pas d'acquis. Et on voit qu'il y a d'autres mouvements en Europe qui vont restreindre en fait les droits et l'accès à l'avortement, et voire même dans des cas comme la Pologne, où le droit à l'avortement a été supprimé il y a quelques années, quoi.
Et d'ailleurs, si vous voulez des infos par rapport à ça, il y a des sites très intéressants. Il y a pas mal d'infos sur le site de l'ANSIC. Donc ANSIC, vous tapez ça dans un moteur de recherche sur Internet. C'est l'Association nationale de coordination de l'avortement et de la contraception. Et honnêtement, ils donnent pas mal d'infos sur les lois et sur l'histoire et tout.
Alors, on peut dire aussi que du coup, pendant toutes ces années, notamment sur la dernière décennie, il y a environ 210 000, 220 000 avortements de femmes qui avortent en France. Ça fait à peu près aussi une femme sur deux qui sera concernée par l'IVG durant sa vie. Alors, c'est quand même un acte qui est hyper courant. Et malgré ça, y a une culpabilisation assez forte encore qui existe sur les femmes. Et donc, simplement parce qu'on va considérer que l'IVG, c'est un échec à l'avortement, à la contraception, et sans vraiment souvent se dire que c'est une responsabilité collective, en fait, cette histoire de contraception et de contrôle et de maîtrise des naissances. On va beaucoup le reporter sur les femmes. Alors que voilà, c'est une question de société et de rapport à ça collectif. Et puis voilà, il y a aussi cette question du mal. C'est comme l'IVG, il est considéré comme un mal nécessaire, comme quelque chose du coup qui n'est pas bien. On va régulièrement parler des récidivistes pour parler des femmes qui avortent plusieurs fois et viser un espèce d'objectif qui serait le zéro avortement. Alors que bon, c'est pas forcément quelque chose qui a aussi vraiment du sens. Et on pourrait penser que l'avortement il s'inscrit dans une pensée de régulation des naissances, de maîtrise de la fécondité. Quoi. C'est aussi encore une forme de tabou qui existe autour de l'avortement, et ça permet pas finalement d'échanger sur plein de vécus et sur...
Oui, d'en parler, par exemple, comme elle pouvait le faire avec le MLAC, par exemple, dans les pratiques autonomes, on voit, il y a beaucoup de témoignages comme ça où les femmes, elles pouvaient échanger, discuter autour de qu'est-ce que c'est pour elles, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et ça, c'est pas possible partout en France, et j'imagine que c'est possible dans certains centres IVG où ça doit se passer très bien et où il y a des chouettes expériences autour de ça.
Ouais. Et du coup, là, ce qui va prendre aussi de la place dans le débat collectif, là, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas eu le temps, mais si je l'ai dit sur l'amendement Giraud machin là.
Oui, c'est vrai que. Ouais.
Donc il y a un débat autour de une confusion entre le fœtus et la personne. Et voilà, ça aussi, c'est un problème. On reviendra dessus plus tard. Et là, on va s'écouter à un enregistrement du texte de Christine Delphi qui est dans le livre « Avorté » dont tu as parlé au début de l'émission. Je vais aussi redire que « Regarde, elle a les yeux grands ouverts » est téléchargeable sur le site des renseignements généreux.
Voilà.
Et puis, ce texte s'appelle...
Comment nous en venons à avorter nos vies sexuelles. Et c'est paru dans Le Monde le 22 octobre 2000. Ça résume pas mal ce qu'on était en train de dire sur la culpabilité et tout ça.
Voilà, et puis ensuite, on entendra Brigitte Fontaine qui nous chante Le genre humain. Et puis on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.
Salut.
Je vais vous lire un texte de Christine Delphi, « Comment nous en venons à avorter nos vies sexuelles », paru dans Le Monde du 22 octobre 2000. Le gouvernement a hésité à proposer au vote une réforme pourtant minimale de la loi de 1975 permettant l'avortement. C'est que l'opposition à l'avortement, ou plutôt la légalité de l'avortement, est grande en ce pays. la tradition de l'hypocrisie s'y maintient. Tout le monde le fait, mais personne n'en parle. Comme c'était déjà le cas pour la contraception au début du siècle. C'est au nom du caractère sacré de la vie que, régulièrement, des éditorialistes demandent que l'avortement soit limité, qu'il reste un dernier recours. On craint qu'il ne soit banalisé. Banal, il ne l'est pas. Quoiqu'il soit très fréquent, comment expliquer ce paradoxe ? Jamais la pression n'a été plus forte sur les femmes et les jeunes filles. La recherche du prince charmant, autrefois menée chastement, ne s'imagine plus aujourd'hui sans moments torrides. Les publicités, au cinéma, ne présentent qu'une image du bonheur, du bien-être, de la normalité. Un jeune couple en maillot de bain, en train de danser sur une plage tropicale, les yeux dans les yeux. Que vendent-elles ? Du chocolat ? Du café ? De la lessive ? De la limonade ? On ne peut plus distinguer les produits, tant les arguments de vente sont les mêmes. Beauté, jeunesse et sexualité. Voilà ce qu'on nous vend. Pas n'importe quelle sexualité, cependant. La contrainte à l'hétérosexualité est plus contraignante que jamais. En 30 ans, l'âge moyen des premiers rapports a baissé de 20 ans à 18 ans. L'écart entre les filles et les garçons, qui était de 4 ans, a disparu. La révolution sexuelle est accomplie. Ces bénéfices, cependant, pour les femmes continuent d'être discutés par les féministes. Libération de tous et de toutes, ou réalisation du rêve masculin de libre accès à toutes les femmes. On parle d'éthique et de respect de la vie à des jeunes filles catastrophées par une grossesse. Et en parle-t-on aux garçons qui sont au moins autant concernés, autant responsables. Et pourquoi pas ? Un enfant, ça se fait à deux. Quand un couple s'en dispute la garde, mais plus quand une jeune fille est enceinte. Pourquoi la morale commune est-elle à géométrie si variable ? Sinon, parce que l'intérêt de l'homme est toujours décisif, parce que c'est son choix qui règle non seulement sa conduite, mais celle de toute la société, parce que la liberté des hommes continue d'être plus grande que celle des femmes, et surtout de s'exercer au détriment de celle des femmes. Il est donc normal que les sociétés qui combinent, comme la France, pression au coït et rétention sur la contraception, révolution sexuelle et inégalité des sexes, connaissent des forts taux d'avortement et le condamnent. Tandis que les pays qui le permettent, dans des délais deux fois plus longs que les audacieuses 12 semaines proposées ici, par exemple aux Pays-Bas, 24 semaines, dans la même logique, font de l'éducation sexuelle et contraceptive et connaissent des taux d'avortement beaucoup plus bas. Prendre le problème au moment où il débouche sur une crise, la grossesse non désirée, c'est ignorer, ou peut-être vouloir ignorer, qu'une crise se prépare de longue date. 25 ans après la loi, encore 220 000 avortements par an. Le sous-entendu est que, décidément, on ne peut pas faire confiance aux femmes. On leur donne un peu de mou et hop, elles en profitent pour avorter. Comme si c'était une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. Cela n'a pas à être non plus la tragédie que l'on veut que l'avortement soit, qu'on fabrique avec un parcours du combattant humiliant et traumatisant. Les adversaires de l'avortement ont réussi. Les femmes arrivent au centre d'IVG, porteuses du discours attendu. Et c'est le pire, souvent sincèrement ressenti. Pleine de remords et de culpabilité. Mais de culpabilité de quoi ? Ceux qui nous disent qu'il ne faut pas banaliser l'avortement, que veulent-ils dire ? L'avortement est un crime ? Ou il ne l'est pas ? Certes, la vérité, souvent, n'est ni toute blanche ni toute noire. Mais elle ne peut pas être si grise qu'on nous le dit. Même avec tout le souci des nuances qu'on voudra, il faut se décider. La société française ne veut pas se décider. C'est exprès qu'elle se maintient dans sa majorité dans une attitude ambivalente et ambiguë. Ce n'est pas un vrai crime, mais c'est un acte très grave. Non, assez. Si les femmes pouvaient vraiment choisir leur sexualité, et choisir signifie non seulement connaître les conséquences de ce qu'on fait, non seulement pouvoir se prémunir, mais aussi pouvoir refuser de le faire. Mais aussi avoir le choix d'autres activités, aussi satisfaisantes sur le plan personnel et aussi valorisées socialement. Il y aurait peu ou prou d'avortement, car les activités fécondantes seraient effectuées en connaissance de cause et avec intention, et non dans l'affolement, l'ignorance et la contrainte du groupe ou du partenaire. Mais ça serait une société idéale, et nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à sauver nos vies menacées par des injonctions contradictoires. Personne n'a le droit d'interdire ni de condamner, ni même d'émettre des réserves sur la nécessité vitale de l'avortement. Quant à sa légitimité, dans cette société idéale, l'avortement serait rare, mais aussi légal que n'importe quelle autre opération, selon le principe du droit des gens à disposer de leur corps.
Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu sait quel gars-là, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté, dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien.
Espérons pas.